Camarades, travailleuses, travailleurs. Donc Thierry l'a dit, je suis candidate à la présidentielle pour faire entendre le camp des travailleurs, les intérêts des salariés, des ouvriers, des employés, des chômeurs. Je suis candidate pour permettre à ceux qui sont conscients des responsabilités du patronat dans la dégradation de leurs conditions d'existence de le dénoncer. Je suis candidate pour leur permettre de rejeter tous ces candidats qui, du Parti socialiste jusqu'au Front national, aspirent à gouverner pour le compte du patronat. Droite, Parti socialiste, Front national, ils se préparent tous à faire la politique exigée par le patronat. Que ce soit avec Fillon ou Juppé, la droite revendique une politique férocement anti-ouvrière. Vous avez entendu ce qu'ils promettent. Le recul de l'âge de la retraite, la fin des 35 heures, la suppression de centaines de milliers de postes de fonctionnaires, la diminution des indemnités chômage, le démantèlement de la sécurité sociale, j'en passe, et des meilleurs. Et de l'autre côté, pour la bourgeoisie, eh bien ce sera la suppression de l'ISF, de l'impôt sur la fortune, ce sera de nouveaux milliards de cadeaux fiscaux avec des exonérations de cotisations sociales, et puis ce sera la liberté de faire à peu près tout ce qu'elle veut. Quand le Parti socialiste aura un candidat et que la saga se présentera-t-il, se présentera-t-il pas, sera passée, eh bien ce candidat se démarquera sans doute de la purge promise par la droite. Mais il se démarquera en parole, parce que dans les actes, eh bien, on l'a vu à l'œuvre. Et si la droite peut aujourd'hui présenter des programmes aussi anti-ouvriers, c'est justement parce que les socialistes au pouvoir ont déjà fait un bon bout de chemin. En justifiant, par exemple, 40 milliards de cadeaux au patronat, en expliquant qu'il fallait diminuer de 50 milliards les dépenses publiques, en commençant le démantèlement du Code du travail avec la loi El Khomri, en encourageant par la loi la généralisation des accords de compétitivité que vous connaissez bien chez Renault Flin, et puis en rallongeant aussi, de fait, l'âge de départ à la retraite en augmentant le nombre d'annuités nécessaires. En fait, la droite ne fait que reprendre le travail là où le laissent Hollande, Valls et Macron. Macron qui ose aujourd'hui se présenter en homme politique nouveau et moderne. La réalité, c'est qu'une fois au pouvoir, tous ces gens-là se passent le relais. En 2012, Hollande a pris le relais de Sarkozy en prolongeant sa politique anti-ouvrière. Eh bien aujourd'hui, la droite se prépare à prendre le relais à son tour pour pousser le bouchon encore plus loin. Et Marine Le Pen et le Front National aspirent exactement à la même chose. Le Front National n'a pas eu l'occasion de le démontrer en accédant au pouvoir. Alors on entend beaucoup autour de nous dire qu'il faut peut-être l'essayer. Mais comme Hollande et Sarkozy, Le Pen défend une politique pour aider le patronat, pour baisser, comme elle dit, elle aussi, le coût du travail, pour faciliter la compétitivité et les profits patronaux. Exactement comme les autres, elle parle d'augmenter le temps de travail et elle explique qu'il n'est sûrement pas question d'augmenter le SMIC. Alors bien sûr, le Front National n'a pas le passif de la gauche et de la droite au gouvernement, mais il a un passé politique. Le Front National, c'est la France de Vichy et de l'Algérie française avec une grosse couche de maquillage. Le Pen père fut élu député en 1956. À cette époque, il était parachutiste torsionnaire en Algérie. Et bien sûr, aujourd'hui, le père Le Pen a été mis de côté, mais au cœur du Front National, il reste bien les mêmes idées. L'anticommunisme, l'hostilité aux syndicats, aux grèves et aux travailleurs qui se battent. Pour dénoncer les migrants, les pauvres parmi les pauvres, Marine Le Pen n'a pas de mots assez durs. Mais quand il y a une lutte contre les vrais privilégiés, contre les riches dont elle fait partie, eh bien on la retrouve de l'autre côté de la barricade, du côté de l'ordre et du gouvernement. Et on a l'organisation du printemps dernier contre la loi de travail. Et puis, souvenez-vous aussi comment Marion Maréchal Le Pen a traité les salariés d'Air France de voyous qu'il fallait mater avec l'armée. Alors, tout ça pour dire que quand on appartient au monde du travail, voter pour Le Pen, Fillon, Hollande ou Macron, eh bien, c'est voter contre son camp. C'est voter contre ses intérêts et c'est tendre le bâton pour se faire battre. Dans cette élection, il faut affirmer, au contraire, nos droits de travailleurs, notre conscience d'appartenir à un camp qui est opposé à celui de la bourgeoisie et à l'opposé, justement, de tous ses serviteurs politiques. Lors de la mobilisation contre la loi El Khomri, nous avons été des centaines de publics à nous battre contre l'augmentation du temps de travail, contre la précarité, contre les mensonges patronaux sur le prétendu dialogue social en entreprise. L'immense majorité des travailleurs a été solidaire et s'est reconnue dans ce mouvement. Eh bien, il faut que dans les élections, nous exprimions les mêmes intérêts de classe. Il y a 6 millions de chômeurs. Les cadences, la charge de travail ne cessent d'augmenter. Et c'est vrai dans toutes les entreprises, c'est vrai dans le privé, c'est vrai dans le public. La pression des cadres et des chefs est de plus en plus insupportable. Les salaires sont bloqués au SMIC. Ils ne permettent pas de joindre les deux bouts. Les loyers, les factures d'eau, d'électricité, les assurances s'envolent. Quand on a de moins en moins pour vivre. Dans cette élection, nous appelons les travailleurs à affirmer la nécessité de profit pour garantir les emplois, pour répartir le travail de face entre tous, à combattre le chômage. Nous les appelons à affirmer la nécessité d'augmenter les salaires et les pensions de retraite. Nous les appelons à affirmer le droit de contrôler l'argent qu'il y a dans les entreprises parce que le patronat nous ment sur la réalité des profits. Crise ou pas crise, la classe capitaliste continue d'accumuler les profits. La grande bourgeoisie à s'enrichir avec la collaboration active de tous les gouvernements. Alors nous devons affirmer que les travailleurs ont le droit et le devoir de défendre leur peau. Nous appelons les travailleurs à affirmer que le monde du travail n'a pas à être sacrifié sur l'autel du grand capital. Nous appelons à un vote de classe, à un vote de combativité ouvrière. Et faire entendre nos intérêts de salariés, de chômeurs, à l'opposé de la politique patronale. Affirmer nos revendications, nos objectifs en tant qu'exploités, eh bien, c'est ce qu'il y a de plus utile à faire dans ces élections. Parce qu'on le sait d'avance, les jeux sont faits. Celui qui sortira des urnes en 2017 sera un ennemi des travailleurs. Alors l'enjeu pour les exploiter, ce n'est sûrement pas de choisir parmi tous ces gens-là celui qui piétinera nos intérêts à partir de mai 2017. Quand on est en activité ou au chômage, quand on est ouvrier, employé, fonctionnaire, voter pour l'un ou l'autre de ces candidats, c'est accepter par avance d'être trompé et d'être sacrifié. Alors il ne faut pas marcher dans cette duperie électorale. Mais puisqu'on nous donne la parole au premier tour, eh bien, il faut la prendre. Il faut la prendre pour s'exprimer, pour mettre en avant nos préoccupations de travailleurs, pour défendre nos propres intérêts matériels et politiques, pour contribuer, dans la mesure du possible, à renforcer la conscience de classe et à aider les travailleurs à se préparer, à se battre, parce qu'une fois au pouvoir, tous ces gens-là vont nous attaquer et il faudra se battre. Avec la question du terrorisme et des migrants, les principaux candidats se sont lancés dans une campagne démagogique, sécuritaire, anti-immigrée et xénophobe. Et cela sans même que Le Pen n'entre réellement dans l'arène. Tout ça, c'est de la diversion et c'est de la démagogie. Parce qu'ils ne sont pas plus capables de maîtriser l'arrivée de migrants que d'éradiquer le terrorisme. Ni Fillon, ni Hollande, ni Le Pen ne freineront l'arrivée des migrants. Ils peuvent construire des murs, des barbelés, creuser des fossés, mettre des miradors. C'est d'ailleurs ce qui se passe déjà dans de nombreux pays. mais ils n'empêcheront pas la vague migratoire. Parce qu'on a tous en tête les images de ces villes, Alep, Mossoul, de toutes ces villes qui sont bombardées en Syrie et en Irak. Et on sait que tant que les hommes auront des jambes et l'énergie pour marcher, eh bien, ils essaieront de sauver leur peau. Et nous ferions tous exactement la même chose dans la même situation. L'extrême droite et la droite multiplient les pétitions contre l'accueil des réfugiés, tandis que le gouvernement se targue de mener une politique plus humaine. Mais regardez comment les socialistes présentent les migrants, non pas comme des victimes, mais comme des indésirables, non pas comme des femmes et des hommes qui sont comme nous, mais comme des fardeaux. Et qu'un élan de solidarité s'exprime et la propagande se met en marche pour marteler qu'il ne faut pas créer d'appel d'air. Tout est fait pour que nous taisions nos sentiments de fraternité. Tout est fait pour nous convaincre que les migrants représentent une menace pour nous et pour nos enfants. Tout ça, c'est de la démagogie aussi stupide qu'infecte. Mais attention, les victimes de cette démagogie ne seront pas seulement les migrants d'hier ou d'aujourd'hui. Nous en paierons tous les conséquences. Parce que les politiciens ne spéculent pas seulement sur des préjugés, sur des fantasmes. Ils invoquent aussi le chômage élevé, la pénurie de logements, la saturation de notre système de soins qui sont bien réels. Mais tout ça, c'est une façon de nous matraquer l'idée qu'il n'y a déjà pas assez pour tous. Et cela leur sert à justifier la politique anti-ouvrière en nous enfonçant dans le crâne qu'il est vain de revendiquer et qu'il faut se serrer la ceinture. C'est une façon aussi de nous mettre en concurrence permanente, de nous opposer les uns aux autres, ceux qui ont un travail à ceux qui sont au chômage, ceux qui sont en intérim, en CDD, qui sont en CDI. Tout ça, c'est un instrument de division. Avec cette campagne, ils veulent nous enfumer pour ne pas avoir de compte à rendre sur la misère qu'ils ont contribué à fabriquer et pour cacher les milliards qui sont accumulés dans les mains d'une minorité. Ils ne cessent de nous répéter qu'on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Mais ce sont eux qui la fabriquent, la misère, en pillant les richesses des pays pauvres partout sur la planète et en s'acoquinant avec les pires dictatures. Ils la fabriquent en Irak, en Syrie, par leurs manœuvres et par leurs bombes. Et ils la fabriquent aussi ici, par ce chômage de masse et cette précarité. Et ils la fabriquent pour que la minorité capitaliste s'enrichisse encore et toujours. Alors, dans cette élection, eh bien, montrons qu'il y a des travailleurs qui ne se trompent pas d'ennemis. Affirmons que les travailleurs n'ont pas à se battre entre eux pour se partager la misère, mais qu'ils ont à imposer le contrôle sur les richesses qu'ils produisent pour s'opposer à ce qu'elles soient confisquées par une minorité. Affirmons qu'il y a bien deux mondes dans cette société, celui des riches et celui des pauvres, celui des exploiteurs et celui des exploités, qui regroupe des femmes et des hommes de toutes origines et de toutes confessions. Et affirmons, pour tous les exploités de cette terre, la liberté de circulation et d'installation. Accueillons les migrants à bras ouverts parce qu'ils ont leur place dans le combat qui est le nôtre et qui est de combattre cette minorité capitaliste qui domine le monde et qui nous pousse vers la barbarie. Quand... Ah, accident de... C'est quand même pas. Quant au terrorisme et à la délinquance, regardez comment tous, du Front National jusqu'à Hollande, ils se complaisent dans des postures autoritaires et répressives. Mais ce n'est pas cette course à l'échalote sécuritaire qui réglera quoi que ce soit. Notre société est malade. Elle pourrit de l'intérieur. Et que des jeunes de 15, 18, 20 ans ne rêvent que de se faire exploser et de tuer le plus de monde possible pour aller plus vite au paradis est une des expressions de cette décadence. Il n'y a plus d'idéal et de projets collectifs. C'est le culte de la réussite et de l'enrichissement personnel. On est censé s'extasier devant les milliardaires alors que la misère s'étale partout sous nos yeux. La société capitaliste marginalise et exclut. Elle nous met en concurrence permanente et elle nous force à nous forger une... au chacun pour soi, à l'isolement et à la haine de l'autre. Et c'est cette déshumanisation qui fait le lit de la délinquance et du fanatisme religieux. Alors, il est facile de tenir des discours électoralistes et de promettre toujours plus de répression, mais changer cette réalité-là, c'est autre chose. Mais nous n'avons pas le choix, il faut la changer. Et le changement, eh bien, ce sera de mettre fin aux inégalités et à l'exploitation capitaliste. Le changement, ce sera le renversement de la bourgeoisie et son expropriation. Et ce changement, eh bien, il dépend du combat des travailleurs, parce qu'il représente la seule force sociale capable de construire une société de justice, de fraternité, basée sur l'organisation collective de l'économie. Du côté de ce que l'on appelle la gauche de la gauche, on est bien loin de ces perspectives, y compris au Parti communiste. Le Parti communiste se déchire depuis des semaines sur la question de son candidat à la présidentielle. Il devrait décider incessamment sous peu. Hein, apparemment, les votes sont en cours, sont en train d'être dépouillés. Bon, mais de toute façon, ce n'est pas tellement le choix qui juge de la politique du PC. C'est en réalité toutes ces hésitations qui en disent déjà long sur sa politique. Parce que cherche le Parti communiste depuis maintenant des semaines ? Un bon candidat de gauche. Alors que de plus en plus de travailleurs ont compris qu'ils avaient autant d'ennemis à gauche qu'à droite, eh bien la direction du PC leur propose de retomber dans le même piège et dans les mêmes illusions. Les perspectives politiques du PC ne sont pas fondées sur les intérêts et sur les luttes du monde ouvrier. Elles sont en fonction des alliances électoralistes censées préserver ses élus à l'Assemblée nationale, dans les régions, les départements ou les municipalités. Ce sont des calculs stériles, illusoires et démoralisants pour ses propres militants. Exactement comme il l'a fait avec Mitterrand, puis avec Jospin, le PC veut recréer des illusions dans la gauche gouvernementale et refaire une virginité à des politiciens qui pensent en bourgeois et qui sont attachés à l'ordre bourgeois. En remplaçant la lutte de classe par l'électoralisme, le PC a désarmé les travailleurs. Il les a écœurés et désorientés, au point que certains aujourd'hui en viennent même à regarder du côté du Front national. Et aujourd'hui encore, il continue. Alors, ce que j'ai à dire à ceux des militants et des sympathisants du PC, pour qui l'étiquette communiste a encore une signification, et à tous ceux qui n'ont pas renoncé à agir auprès des travailleurs, dans les entreprises et dans les quartiers, c'est retrouver confiance dans les travailleurs. Retrouver les idées qui ont été à la base de la fondation du Parti communiste. Le PC s'est fondé au début des années 1920. Pour rompre avec le Parti socialiste et sa politique d'union sacrée pendant la Première Guerre mondiale, avec la bourgeoisie et avec son État. Il s'est créé pour lever le drapeau de la Révolution et affirmer la nécessité pour les travailleurs de renverser la bourgeoisie et de prendre le pouvoir. Est-ce que la société capitaliste a changé depuis ce temps-là ? Ces idées et cette perspective ont-elles fait faillite ? Non. C'est l'électoralisme et c'est le réformisme qui ont fait faillite et que nous payons aujourd'hui. Et on le paiera demain si on s'en remet à Mélenchon, comme la direction du Parti communiste le souhaitait. Mélenchon ne se présente même pas sur le terrain des intérêts des travailleurs. Mélenchon est d'ailleurs devenu le premier écologiste du pays. Et puis surtout, comme les autres, il défend une politique pour la France. Comme s'il pouvait y avoir une bonne politique, tout à la fois pour le grand patronat et pour les travailleurs. Comme si leurs intérêts n'étaient pas contradictoires, comme s'il ne fallait pas choisir son camp. Mélenchon est en guerre contre beaucoup de choses. Contre les traités européens, contre la politique de l'Allemagne et ses retraités, contre les États-Unis, contre la Ve République, contre les médias aussi, souvent, mais pas contre le grand patronat, pas contre son pouvoir sur l'économie et pas contre son système d'exploitation, qui est à la base de la condition ouvrière. Avec d'autres, y compris avec Le Pen ou Dupont-Aignan, eh bien Mélenchon se veut le champion du souverainisme et de l'indépendance de la France. En prétendant, par exemple, que l'Union européenne et ses traités sont responsables de tous les maux des travailleurs, eh bien, il contribue, lui aussi, à nous détourner des vrais responsables du chômage et des bas salaires. Les patrons bien français n'ont besoin d'aucun diktat de Bruxelles pour démolir les droits des travailleurs ou tirer les salaires vers le bas. La loi travail, les 6 millions de chômeurs, ce n'est pas la faute de Bruxelles, mais des capitalistes et des gouvernements bien de chez nous. Et puis, opposer les pays les uns aux autres, eh bien, c'est opposer les travailleurs les uns aux autres. Et c'est ainsi que Mélenchon en est arrivé à copier Le Pen en parlant, vous l'avez sans doute entendu, des travailleurs détachés venus de Pologne qui viendraient voler le pain des travailleurs d'ici. Eh bien, nous, nous disons qu'aucun travailleur n'a jamais volé son pain. Son pain, il le gagne à la sueur de son front et de ses muscles. Et les seuls vrais voleurs de cette société, ce sont les exploiteurs. Et nous affirmons le droit à un... Nous affirmons que le droit à un emploi et à un salaire est un droit pour tous, quelle que soit sa nationalité, son origine, sa confession. Au lendemain de l'élection, qu'est-ce qui changera pour nous? Nous retournerons au boulot, pour ceux qui en ont encore un. Beaucoup d'entre nous iront pointer à Pôle emploi ou à l'agence d'intérim et on se retrouvera confrontés aux mêmes chefs, aux mêmes patrons, aux mêmes actionnaires invisibles mais tout puissants. On se retrouvera confrontés à son banquier, à son propriétaire qui n'admet aucun retard de paiement quand bien même on a perdu son travail ou qu'on se retrouve au chômage technique. On se retrouvera confrontés au pouvoir de l'État qui sait très bien dérouler le tapis rouge pour les plus riches mais qui est sans pitié pour les classes populaires. Autrement dit, rien de fondamental n'aura changé pour nous. Parce que ces élections, elles ne changeront pas la condition d'exploiter, et elles ne changeront pas cet ordre social qui est dominé par l'argent et par la bourgeoisie. La nouveauté, c'est que Bettencourt, Michelin, Bolloré auront un nouveau personnel politique pour les servir. Ils auront un nouveau président de la République à leur disposition. Cela, beaucoup de travailleurs le savent, parce que d'élection après d'élection, ils en ont fait l'expérience. Et ils savent qu'il ne faut pas prendre les promesses des politiciens pour argent comptant. Mais, faute de lutte sociale d'ampleur, eh bien toute la vie politique se résume à ces élections. Et chaque campagne électorale donne lieu à un spectacle où jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, les politiciens relayés par les médias, nous joue la comédie du changement. Et c'est ainsi que repart la machine à fabriquer des illusions électoralistes. C'est ainsi que les électeurs sont dressés pour aller voter utile, ou alors essayer quelqu'un qui n'a jamais gouverné, ou encore pour voter pour le moins pire. Mais encore une fois, le mieux que nous pouvons faire dans cette élection, en tant que travailleurs, c'est de nous exprimer. Beaucoup parleront avec mépris d'un vote de contestation, de protestation ou encore d'un vote d'expression. Eh bien, nous le revendiquons. Nous appelons les travailleurs à voter pour exprimer leurs intérêts matériels et politiques. Cela ne changera pas la société, cela ne modifiera pas le rapport de force avec le patronat et le gouvernement, c'est vrai. Seules les luttes sociales d'envergure, celles équivalentes à mai juin 36 ou en 68, peuvent le faire. Mais seuls ceux qui se battent pour leurs idées, pour leurs objectifs, pour leurs perspectives peuvent influencer l'opinion et l'état d'esprit des travailleurs. Et la résistance des travailleurs, eh bien, elle dépend aussi de ce qu'ils ont dans la tête. Alors, dire que l'on n'est pas d'accord, exprimer nos intérêts contre nos ennemis, c'est la première chose à faire, c'est le premier acte de résistance. craignons pas d'être minoritaires. À quoi cela sert-il de voter avec la majorité quand cela conduit à élire un adversaire? Aujourd'hui, combien de travailleurs se mordent les doigts d'avoir voté pour Hollande en 2012? Il faudrait recommencer avec un autre? Chercher à voter pour le moins pire est également un piège. Parce qu'il n'y aura pas de moins pire. Donc chercher à voter pour le moins pire, ça ne tient pas à la route non plus. La situation, elle ne peut qu'empirer pour le monde du travail si nous ne nous battons pas à nouveau collectivement. Quant à s'abstenir, ce n'est pas la preuve de radicalisme ou de conscience. S'abstenir, c'est se résigner, c'est se taire, c'est se soumettre. Encore une fois, si nous ne défendons pas nos idées, personne ne le fera à notre place, comme personne ne mènera le combat à notre place. On peut nous enlever beaucoup de choses. On peut nous enlever notre boulot, notre salaire, notre logement, mais on ne peut pas nous enlever nos idées, nos convictions, notre dignité. Eh bien, il faut les exprimer. Et il n'y a pas de petits combats, il n'y a pas de petits gestes. Quand on est minoritaire, eh bien, c'est même plutôt le contraire. La moindre voix compte et la moindre voix peut porter. Alors il faut entraîner le maximum de ceux qui nous entourent à joindre leur voix à la nôtre. Nous sommes à contre-courant. Mais quand le courant pousse dans une direction aussi réactionnaire, aussi infecte, voire barbare, et quand le courant pousse à la soumission et à la résignation, eh bien oui, nous pouvons être fiers d'être à contre-courant. Je suis la candidate de Lutte ouvrière. Bon, il fallait un nom, hein. C'est comme ça que les institutions sont faites. Si on avait pu présenter 10, 100, 1000 candidats, on l'aurait fait, bien évidemment. Mais là, ça se passe comme ça. Je serai donc en première ligne et je me battrai comme je pourrai sur les plateaux de télé à chaque fois que l'on m'en donnera la possibilité. Mais je tiens quand même à dire, vous l'avez un peu déjà compris, que ma campagne sera ignorée par les médias jusqu'aux 15 derniers jours à peu près, où ils seront contraints de m'inviter un petit peu. Alors, il ne faut pas compter sur les médias pour faire cette campagne. Pour que cette campagne soit réussie, eh bien, il faut que ce soit notre campagne à tous. Il faut que ce soit votre campagne. Il faut que vous multipliez les discussions avec vos camarades de travail, dans votre famille, auprès de vos amis, dans votre voisinage. Et il faut essayer de les convaincre, de leur donner envie de s'exprimer en tant que travailleurs, salariés, chômeurs. Rien n'est à négliger et toutes les discussions seront utiles. Cela dépend de la ténacité, de la force de conviction de chacun d'entre nous. Mais si nous sommes plusieurs milliers à entraîner 5, 10, 50 personnes à voter pour leur camp, et si ces personnes en entraînent elles-mêmes une ou deux, eh bien nous aurons fait une bonne campagne. Cela nous donnera aussi la possibilité de nous rassembler et d'associer des jeunes et des moins jeunes. Et cela nous donnera la possibilité de renforcer les équipes militantes pour construire le parti qui est nécessaire au monde du travail. Aujourd'hui, du Front National au Parti Socialiste, la bourgeoisie a une variété de partis à sa disposition. Ils ont tous leur petite singularité, mais ce sont tous les mêmes. Mais la classe ouvrière, elle, eh bien, elle n'en a aucun qui exprime ses intérêts de classe. Il nous faudrait un parti des travailleurs, un parti qui dissipe les illusions, démasque les faux amis, cible les vrais ennemis et diffuse sur chaque question un point de vue communiste. Un tel parti ne se formera pas en un seul jour. Il faudra surtout des luttes massives et déterminées. Mais les élections peuvent contribuer à une petite échelle à le construire. Alors, je fais appel à vous tous pour qu'on utilise toutes les possibilités offertes par la campagne pour faire avancer ces idées-là et associer de nouveaux camarades à notre combat. Parce qu'encore une fois, dès que les urnes seront rangées, notre situation sera la même et le combat continuera. Et pour finir, je voudrais dire que l'Élysée ou Matignon, ni Arlette Laguiller, ni moi-même n'en avons jamais rêvé. ni moi, ni aucun des camarades de LO n'aspirons à prendre quelque responsabilité que ce soit dans ce système qui est basé sur l'exploitation et sur l'oppression. Nous voulons le renverser. Mais je l'ai déjà dit, le pouvoir de l'État, oui, nous voulons le conquérir. Nous voulons le conquérir avec la classe ouvrière. Et nous sommes communistes révolutionnaires. Et nous avons la conviction que les travailleurs peuvent s'emparer du pouvoir étatique et s'en servir pour exproprier la bourgeoisie et pour créer un monde débarrassé de l'exploitation et une économie capable de répondre aux besoins de tous. Alors ce n'est évidemment pas ce qui est en cause, ce qui est en jeu dans cette élection, mais cela signifie qu'il n'y aura pas de mauvaise surprise. Ceux qui voteront pour ma candidature voteront pour faire entendre leur camp, le camp des travailleurs. Leur vote ne servira pas de tremplin à un arriviste. Il ne sera pas déformé, il sera sans ambiguïté. Personne ne pourra se tromper sur le sens de ce vote. Nombre de gens et de catégories sociales sont en colère. Et ils exprimeront cette colère, mais des façons différentes. Y compris certains l'exprimeront avec le vote Le Pen. Mais le mécontentement qui s'exprimera sur ma candidature aura un caractère ouvrier. Ce sera un vote de rejet de tous ces politiciens qui sont prêts à servir la soupe à la bourgeoisie. Ce sera un vote qui affirmera les droits, les intérêts, les perspectives du monde du travail. Ce sera un vote qui affirmera que quel que soit l'élu en 2017, nous savons que nous serons attaqués et nous ne nous laisserons pas faire. Ce sera un vote de dignité et de conscience ouvrière qui affirmera que la société peut se passer de la bourgeoisie, mais pas des travailleurs qui font tout tourner dans cette société.